Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux.
Excellente soirée avec un nouvel épisode du Club sang et or avec toujours au fidèle au poste Jean-Charles Virlogeux. Bonsoir Jean-Charles.
Bonsoir.
Notre invité c'est Andreas Untonji, l'attaquant du Stade Malherbe de Caen mais prêté cette saison à Rodez. Bonsoir Andreas.
Bonsoir.
Dans cette première partie, on va parler de cette rencontre folle à laquelle nous avons assisté samedi dernier à Paul-Lignon contre Angers. Et puis dans une deuxième partie qui sera retrouvée évidemment en podcast sur notre site radiototem.fr, on aura l'occasion de s'intéresser un peu plus à vous en détail, Andreas. Mais avant ça, résumé de la rencontre.
Monsieur Bastien de Chépy qui donne le coup d'envoi de cette rencontre ici au stade Paul-Lignon entre Rodez et Angers.
Probablement en position un peu plus.
Attention avec une première occasion pour Diony. Oh là là, l'ouverture du score, douche froide ici à Rodez. L'ouverture du score de l'ancien Stéphanois Louis Diony qui a trompé la vigilance de Serge Philippe Royao et de Bradley Danger. Il était dans la surface de réparation, c'était un ballon un peu confus, ça a rebondi pas mal de fois dans cette surface de réparation. Et l'ancien attaquant des Verts, Louis Diony, meilleur buteur pour l'instant d'Angers, eh ben, qui confirme son statut en inscrivant le premier but de la rencontre.
On va en rester là, monsieur ouais. De Chépy qui siffle la fin de cette mi-temps. Diony, fais-moi mal. C'est exactement ce qui s'est passé, malheureusement, pour les Ruthénois qui ont mis du temps hein, avant de se remettre dans le match. Ils ont fini par remettre la tête hors de l'eau, à se créer des situations intéressantes. Mais pour l'instant, ça n'a pas suffi pour revenir au score. Pas de changement pour l'instant, en tout cas, même si ça viendra peut-être rapidement.
Kylian Kone dans la surface de réparation, qui sait que ça.
Et but.
Première longue ouverture de Bradley Danger, déviation de Clément Després, qui est le corridor, qui est en affût, qui est à l'affût et qui réussit à capter ce ballon. Il se défait du marquage et trompe la vigilance de Yaya Fofana.
Oh, qu'est-ce qui va faire du bien à Rodez et qu'est-ce qui va faire du bien à Kylian aussi, ce but. Ah, on sent que ça lui a fait du bien, Kylian Corridor, dans ses attitudes, ce but. Il ne perd pas le ballon, il essaye de trouver des solutions. Il l'a trouvé avec Lorenzo Rajo, peut-être en position de centre. Ça va mieux, hein, côté ruthénois, clairement, on voit le gain de confiance.
Oh oui, bien joué. Taibi.
Et le deuxième but pour Rodez.
L'ancien Angevin qui libère Paul-Lignon. 2-1 ici sur cette pelouse de Rodez. Magnifique ballon de Lorenzo Rajo.
Allez, c'est Kylian Corridor qui essaye de renverser complètement vers Lorenzo Rajo. Il y a peut-être quelque chose à faire là avec Willy Tiounoussa. Willy Tiounoussa, il a envie de marquer ce soir.
Dans le pied droit, dans la surface de réparation, Kylian Corridor s'est touché. Faut passer devant, bien joué. Andreas Untonji dans la surface de réparation, la frappe.
But,
Andreas Untonji pour le 3-1. Ils se sont battus, les attaquants de Rodez. Ils se sont battus avec Andreas Untonji qui est passé devant Yaya Fofana. Et il lui a mis ensuite un petit ballon entre les jambes. 3-1 pour Rodez.
Ouais, et pour l'instant, c'est pas le cas parce qu'il y a Willy Tiounoussa qui lance Lorenzo Rajo. Lipinski qui se propose sur la gauche, il va écarter vers lui. Non, il va tenter Lorenzo Rajo, c'est au fond. Incroyable Lorenzo Rajo, belle feinte. Il aurait pu lancer Lipinski sur sa gauche. Et finalement, il a gardé ce ballon dans les pieds. C'est peut-être ce qui a trompé Fofana également.
Et à la suite de ce résultat, Rodez se retrouve 8e de Ligue 2 avec 8 points au compteur, une victoire 4-1. Andreas Untonji, qui est notre invité dans nos studios. Le plus sensationnel dans cette soirée, c'est que rien au bout de 20 minutes, et peut-être même au bout d'une mi-temps, ne laissait présager d'un tel épilogue. Vous étiez sur le banc au moment du coup d'envoi, mais est-ce que vous avez senti votre équipe, l'équipe de Rodez, qui n'était pas forcément dedans dès le début de la rencontre?
Ouais, c'est clairement le message... Le coach a passé à la mi-temps, j'y étais pas, mais c'est ce qu'il a. Il nous a redit même là, à l'entraînement, quand on est reparti cette semaine, c'est que la première mi-temps, elle n'est pas du tout à notre visage, pas du tout, elle ne nous ressemble pas. Donc, il y avait beaucoup de frustration, beaucoup d'énervement, de mauvais sentiments, mais comme on peut voir dans le résumé, ça allait très très vite en deuxième mi-temps et ça a complètement basculé.
Vous le sentiez venir, ça, avant le match? Il y avait des signes de manque de concentration
Ben franchement, non. L'avant-match, il s'est passé vraiment comme toutes les semaines. Je dirais que tous les matchs sont préparés de la même façon. Après, c'est dès le début du match. Ben, forcément, ça allait très vite parce qu'il y a eu un but directement. Mais
c'est même, surtout le but alors qui vous met la tête dans l'eau.
Le but... nous met la tête dans l'eau, je pense, mais surtout la réaction qu'il y a après, qui n'est pas celle escomptée, celle qu'on a pu faire même dans d'autres matchs auparavant, qu'on a été mené au score, mais au final, elle est venue. Et, tant mieux pour nous.
En tout cas, pas de réaction sur les 45 premières minutes, on va dire.
20 minutes, attendre un petit peu. Et puis après, ça a commencé à aller mieux. En tout cas, pour le suspense et les émotions, bah, ça n'en a rendu la suite que plus exaltante. Hein, parce que les 45 dernières minutes ont confirmé que Rodez était effectivement souvent une équipe à réaction. Écoutez, Joris Chougrani, pour lui, c'est comme si le RAF avait quand même un peu besoin, parce qu'il y avait le match de Pau aussi, de se faire peur et de se faire secouer pour enclencher la marche avant.
Moi, je pense qu'on a été un peu inhibé, peut-être un peu de peur de faire un mauvais résultat ou quoi que ce soit. Après, à la mi-temps, bon, forcément, on s'est pris un savon. Et quand on montre un visage comme ça avec l'équipe qu'on a, on ne peut pas se le permettre. Hein. Et après, voilà, on a vu que dès qu'on avance, on va chercher, on ne recule pas, on arrive à poser des problèmes et à se créer beaucoup plus de situations, d'occasions, et donc forcément d'avoir des buts. C'est quoi à dire ? Il ne faut pas que ça devienne une habitude, mais on a connu ça du coup à Pau, parce qu'à Pau, en première mi-temps, voilà, on perdait 2-0, donc on savait qu'on était capable de revenir. Maintenant, il faudra mettre tous les ingrédients qu'on a mis en seconde mi-temps, il faudra le mettre dès le début du match, parce qu'on, quand ça mord contre toutes les équipes, on n'arrivera pas à revenir à chaque fois en concédant le but. Voilà, maintenant, il va falloir aller chercher des clean sheets et continuer à jouer comme on a joué en deuxième.
Et pour la prochaine fois, n'hésitez pas, Jean-Charles Virlogeux, à taper vos chaussures un petit peu plus loin, s'il vous plaît. Se faire peur, Rodez l'a fait donc avec ce but dès les premières minutes et donc 20 minutes où Angers a fait valoir son statut de grosse cylindrée dans cette Ligue 2. Se faire secouer, c'est ce qui est arrivé également dans les vestiaires. Lorenzo Rajou nous en a parlé après le match de samedi soir. C'est justement un rendez-vous qu'on a choisi de mettre à l'honneur, le rendez-vous de la question à la con.
Je n'ai pas dit que tu étais un con, hein. J'ai dit que globalement la question elle est con.
Alors ça c'est un nouveau rendez-vous que vous ne connaissez certainement pas Andreas, peut-être qu'on vous en a déjà parlé. C'est un rendez-vous que adore Jean-Charles Virlogeux. C'est un rendez-vous où on se permet une petite question un peu décalée, mais à la con, mais pas si à la con que ça, Jean-Charles.
Oui, alors on sait, Lorenzo Rajou nous a raconté que tout le staff, en tout cas une bonne partie du staff et de l'encadrement avait pris la parole tour à tour dans les vestiaires. Ça a gueulé donc, hein, le coach adjoint, le président. Mais nous, la question qu'on se pose, c'est qui est-ce qui fait le plus peur quand il s'énerve, finalement ? Qu'est-ce qui a gueulé le plus fort ?
Là, dans le vestiaire, j'y étais pas. Parce que justement, il a envoyé 3 jours s'échauffer à la mi-temps.
C'est vrai, on vous a vu.
J'étais vraiment énervé, je pensais.
On vous a rien raconté de ce qui s'est passé dans les vestiaires ?
Si, justement, on en a reparlé. À la fin du match, dès la fin du match, ils ont dit que vraiment la tension qu'il y avait dans le vestiaire après la première mi-temps, elle était spéciale et que ils se sont dit les choses, je pense. Après, j'y étais pas pour le voir, mais je dirais que la personne qui fait le plus peur quand elle s'énerve, c'est le coach. Hein. Ouais. Le coach, il crie. Il crie fort, ouais.
Nous, on l'a reçu, il n'a pas beaucoup crié.
Non, mais c'est intéressant de l'intérieur, voilà. Parce qu'il est gentil avec nous, en général.
Oui, et voilà, avec nous. Apparemment, quand ça lui plaît moins, il est peut-être un peu moins gentil aussi.
Ouais. Il a raison, parce que des fois, pour que le message il passe bien, il faut hausser le ton.
Il nous avait déjà dit ça, effectivement, après le match contre Pau, il avait dit « ça a bien gueulé ». Il fallait
question
ça.
Question conne, réponse conne.
Voilà, j'étais obligé de ce petit jingle à son, à son honneur.
Il fallait ça, vous pensez, pour provoquer une réaction, un coup de gueule, ou il y a eu aussi peut-être des réajustements tactiques
Non, parce que l'équipe qui revient à 2-1, je crois qu'il n'y a eu aucun changement. Donc, réajustement tactique.
Quand je dis tactique, peut-être parce que certains joueurs n'étaient pas bien placés.
Oui, je pense que ça, oui, c'est pas forcément que, on va dire, de l'envie. Parce que l'envie, tout le monde l'a tout le temps. Maintenant, je pense que c'est le petit truc en plus qu'on met, oui, au niveau de l'envie, mais après, tactiquement... c'est jouer plus dans nos principes, dans nos valeurs, dans ce qu'on met tout le temps en place à l'entraînement et puis ce qu'on a mis en place depuis le début du championnat.
Mmh. Et parce qu'on le dit souvent, il y a la tactique, il y a le schéma, mais c'est l'animation évidemment, c'est ce qu'on en fait du schéma tactique.
C'est ça.
Bon, en tout cas, 4 buts devant le public de Paul Lignon. On vous donnait cette stat dès dimanche matin dans Totem Sport. Ce n'est que la deuxième fois que les spectateurs ruthénois sont à pareille fête. Pour retrouver la trace d'un pareil festival, il faut remonter à octobre 2019. C'était lors de la première saison de Rodez en Ligue 2, face au Mans. Depuis, 4 buts, c'est arrivé, oui, une fois, mais à l'extérieur. C'était l'an dernier à Valenciennes, 4 buts à 1 aussi. Et puis, c'est arrivé aussi une fois à Paul Lignon, mais pour l'adversaire, contre Metz. Souvenez-vous, également l'an dernier, en début de saison, forcément, c'est moins plaisant.
Moins bon souvenir.
Ouais. Le but qui a ouvert la voie à ce scénario, c'est donc celui de Kylian, hein, qu'on a vécu tout à l'heure, à peine la deuxième mi-temps démarrée. Alors on a compté, tiens, les secondes entre le coup d'envoi de cette seconde mi-temps et le but. Vous savez à peu près combien de secondes ?
Je vais dire 120.
120 secondes ?
Ouais, 120 secondes.
Eh ben même pas, 10 10 secondes entre le coup de sifflet de M. Deschepi et le but. Alors, il ne pourra pas prétendre, évidemment, au but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 2, d'abord parce que c'était la deuxième mi-temps. Mais pour donner un ordre d'idée, quand même, le record du but le plus rapide de Ligue 2, il appartient à Rémi Maréval avec le FC Nantes. C'était en 2009, face à Nîmes, 8 secondes. Donc, on est vraiment juste en dessous. De toute façon, ça peut pas. Il faut que le ballon aille jusque dans la surface de réparation, ça ne peut pas être marqué au bout de 3 secondes. Enfin, à moins de lober le gardien, truc complètement surréaliste. Et la saison dernière, le but le plus rapide avait quand même mis 22 secondes à être marqué. C'était l'œuvre de Wadji avec Saint-Etienne le 8 avril contre le PFC. Est-ce qu'il y a eu un plan ? Alors, vous n'étiez pas dans le vestiaire, mais vous avez peut-être quand même eu vent des discussions. Est-ce qu'il y a eu un plan élaboré à la mi-temps pour marquer aussi vite ?
Je sais que ça se fait souvent, le fait de jouer long sur l'attaquant pour qu'il y ait une déviation. Mais j'étais pas dans le vestiaire, vraiment, je peux pas savoir.
Surtout qu'on a la possibilité avec vous et également avec Clément Després d'avoir des grands gabarits pour justement jouer la déviation. Alors, plus Clément Després, parce qu'on connaît dans ce domaine-là, c'est un peu son domaine de prédilection, le jeu aérien. La déviation est bonne, ensuite il faut être là au bon moment, au bon endroit pour finir, c'est ça ?
Ouais, la déviation est bonne, Kylian il tourne bien autour et puis après, il emmène bien le ballon et il finit bien.
Ouais. Donc il permet à son équipe de revenir dans la partie dès 10 secondes, donc on en a parlé, dans la deuxième mi-temps, Jean-Charles.
Ultra rapide. On a évidemment évoqué ce but avec Kylian, parce qu'il est important donc, pour le scénario du match. Il est aussi important pour lui en tant qu'attaquant, après des semaines à chercher l'ouverture. Lui qui semblait un peu être retombé dans ses doutes de la saison dernière, à cause de sa blessure pendant la préparation. Ce premier but a vraiment semblé le transformer sur le terrain. On était aux premières loges en plus, nous, de là où on commentait le match. On a eu l'impression de le voir parader ensuite et ça pourrait bien être un déclic pour lui comme il l'a été pour l'équipe sur la deuxième période.
On avait pour intention de direct aller chercher et aller égaliser. Ça a été chose faite parce qu'on a égalisé très très vite. Donc voilà, un match est 90 minutes. On a su revenir dans le match. Ça fait du bien. Voilà. Quand on est attaquant, forcément, on aime marquer des buts, on aime aider l'équipe. J'ouvre le compteur, donc mentalement déjà ça fait du bien. Et puis c'est un but important, on revient au score, aider l'équipe c'est... J'ai besoin de ça, donc voilà, c'est très bien. Je me suis blessé pendant la prépa, j'ai fait zéro match de prépa, donc forcément, voilà, c'était important pour moi, c'était important pour l'équipe aussi que j'ouvre le compteur, de leur montrer que je suis là, que je suis bien présent et qu'ils peuvent avoir confiance en moi.
On a bien compris qu'ouvrir le compteur, c'était quelque chose qui lui trottait dans la tête à Kylian Corredor, mais il n'est pas le seul à avoir ouvert son compteur but cette saison, évidemment. Andreas Suntoji, qui est notre invité, vous aussi, ça fait quoi alors d'ouvrir son compteur but avec Rodez ?
Ça fait toujours du bien, chaque but est important. Le premier, on sait qu'il est toujours spécial parce que ouvrir son compteur, ça trotte dans la tête à tout le monde. Après,
surtout quand on est attaquant ?
Quand on est attaquant, oui, parce qu'un attaquant, ça doit marquer des buts. Hein, on le sait, c'est la vie que tout le monde en a. Et moi, en tant qu'attaquant, moi, je sais que je suis plus content que jamais, c'est sûr et certain. Après, je pense pour tous les attaquants, l'objectif, c'est pas forcément de se focaliser dessus, c'est tout ce qu'on met autour pour aller justement à marquer. Et pour le coup, pour moi, j'étais dans ma lancée, on va dire, de ce que je fais depuis le début de saison, à créer, à tenter, à rater. Et il en faut des échecs pour réussir. Et c'est en tentant qu'on va finir par marquer. Donc, c'est bien. Il vient au bon moment parce que, encore une fois, ça aide l'équipe. Et tous les buts aident l'équipe, mais. Il vient au bon moment, il vient pas trop tard, donc je suis content. Et c'est dans la lancée de ce que j'ai pu faire depuis le début de saison.
Puis on sait qu'être attaquant à Rodez, des fois, c'est pas que marquer des buts, il faut être également le premier défenseur. Et ça, à Rodez, on le sait,
après,
on le sait bien.
Dans n'importe quelle bonne équipe, on va dire, ou dans n'importe quelle équipe qui a un minimum de valeur, tous les attaquants défendent. Je pense que c'est encore plus au niveau qu'en Ligue 2 ou à Rodez, ou peu importe. Dans les grandes équipes, les attaquants défendent, c'est important.
En tout cas, on a senti à travers votre célébration que c'était un moment important. Et ce qui est remarquable dans les buts de Rodez, et notamment le vôtre, c'est que ce sont des buts de malin. Racontez un peu votre but à vous.
Alors déjà, je sais que la balle vient de Willy et Bush, ouais. Donc ça allait sur côté gauche. Moi, je me dis que je suis un peu trop loin du but, donc j'essaie d'aller vers le but. Vient le long ballon sur Kiki, je me dis est-ce qu'il va l'avoir ou pas. J'essaie de me rapprocher du but du mieux que je peux. Et je vois qu'il arrive à l'avoir, donc j'accélère un peu, mais je vois que je n'étais pas assez près du but, donc j'ai un peu, je me dis mince, parce que si j'étais un mètre plus tôt, je peux la prendre dès le début. Je continue, j'accélère, j'arrive à passer devant le gardien. Et puis là, j'ai le ballon, on va dire, je suis un peu... Il n'y a pas d'angle, quoi.
Ouais, excentré à droite,
ouais. Je suis excentré à gauche.
Bah, quand on regarde le...
Ouais,
voilà,
ouais, c'est ça, excentré. Ouais. Et je me dis, bah, vas-y, tente. Hein, et je tire et la balle rentre.
Ouais. Mais ce qui est beau, effectivement, c'est que vous prenez votre temps, vous vous précipitez pas, vous revenez sur vos pas. Vous auriez peut-être, effectivement, quelqu'un qui aurait agi avec précipitation aurait peut-être tenté plus tôt dans un angle totalement fermé. Là, il n'y avait pas beaucoup d'angle. Mais vous avez réussi à la glisser entre les pieds du gardien.
Ouais, ouais.
Vous aviez vu qu'il y avait la place là entre les pieds ?
Bah, souvent, en fait, quand on arrive très près du gardien comme ça, on voit un mur. Mais en réalité, bah, c'est un humain. Je sais pas si c'est pas un mur. C'est un mur avec des pattes. Ouais, c'est ça. Tu dis que c'est un mur avec des trous. Donc tu dis que si tu frappes, peut-être qu'il va bouger son pied. Peut-être qu'avec de la réussite, ça va passer. Et là, pour le coup, c'est le cas. Donc c'est top.
Est-ce que vous voyez ça comme une zone faible du gardien, du coup, la partie entre les jambes ? Parce qu'il y a des gardiens qui, des fois, mettent la main derrière, vous savez, derrière les jambes pour essayer justement de bloquer cet espace-là. Il y en a qui sortent d'une manière un peu différente en étant vraiment dans les pieds. Ça dépend en fait de chaque gardien, comment ils peuvent intervenir sur ces ballons-là, sur ces situations-là.
Bah, pour être honnête, sur le coup, là, franchement, j'ai la balle, je frappe parce que je faut tenter. Après, en général, hors du match, parce que dans le match, ça va trop vite, mais hors du match, je sais que les gardiens, forcément, surtout quand ils sont grands, gérer leurs appuis, c'est pas. Et frapper au sol, c'est toujours le plus compliqué pour un gardien, ça on le sait.
Donc, et il faut se baisser,
il faut gérer ses appuis. Et si tu frappes à mi-hauteur, ça c'est ce que d'ailleurs tous les coachs nous répètent, quand on frappe à mi-hauteur, leurs mains, ils les maîtrisent, ils font que les travaillent toute la semaine. Leurs appuis, ils les bossent aussi, mais arrêter un ballon avec le pied, c'est toujours plus dur qu'avec la main. Donc frapper au sol entre les jambes, c'est vrai que c'est compliqué pour un gardien, je pense, surtout quand on est aussi près.
Ça va vite, ouais.
Ça va vite.
Et apparemment, vous aviez bien bossé quand même, hein, le comportement de... gardien jusqu'au...
Oui, c'est travailler toutes les semaines à l'entraînement avec Charles, le coach des gardiens qui analyse les coachs, les goals adverses. Et ouais, on avait vu qu'il avait certaines...
Faiblesses,
ouais, dans son jeu, qu'on pouvait peut-être exploiter. Ouais. Et ça, c'est bien fait.
Effectivement, ça a payé aussi sur le but de Lorenzo. On en parlait en direct samedi dans l'intégrale 100 et or. Rodez s'est aussi retrouvé dans une situation qu'il n'avait plus connue depuis plusieurs semaines. Gérer un avantage au score. Alors, c'était arrivé lors de la première journée contre Ajaccio, parce que le RAF avait très vite marqué, hein, mais ça n'avait tenu que jusqu'à la fin de la première mi-temps. Ça avait tenu pendant un quart d'heure contre Saint-Étienne, ensuite, parce que faut se rappeler qu'avant ce final de folie, hein, contre les Verts, bah, c'est Rodez qui avait ouvert le score en fin de première période, avant d'être rejoint à l'heure de jeu. Mais cette fois, ça a tenu. Rodez a su faire le dos rond au moment où... Angers a envoyé du lourd quand même à l'heure de jeu. On a senti qu'il y a eu un moment où Angers reprenait un peu le dessus, mais Rodez a tenu avant d'enfoncer le clou sur ses deux buts, donc le vôtre et celui de Lorenzo. Et en plus, il n'y a pas que des buts en contre. Le vôtre, celui de Wanis, on pourrait presque dire que ce sont... On peut peut-être les qualifier comme ça, ce sont des buts d'attaque placés, non ?
Je ne me souviens même pas vraiment de comment on a construit... Le but que je marque ou celui de Wanis.
Ah, il y a une séquence de possession avant qui est.
Le quatrième, je crois que c'est une récupération à droite, ça va à gauche et puis après Luch marque. Le deuxième et le troisième, on va dire qu'on était en. Ouais, on était dans la surface, ouais, c'est des attaques placées. Hein. Mm. Je pense que c'est des attaques placées parce que.
Pas si fréquent finalement.
On a gardé le ballon devant la surface, donc ouais.
C'est plutôt prometteur dans le jeu, effectivement. Alors celui de Lorenzo vient un peu plus quand même conclure une attaque rapide avec cette donc frappe légèrement extérieure, pied gauche. Jusqu'au bout, on l'a dit, hein, l'appel de Raphaël Lipinski sème le doute dans la tête de la défense et du gardien. Lorenzo s'en est évidemment servi, comme il nous le raconte, avant d'évoquer comment Rodez donc a su rester maître des événements et enfoncer le clou en fin de match.
Bah, en fait, c'est ça. Will, il change bien. Il fait un bon changement de côté. Et, après, il y a un bon dédoublement de Raph. Et je vais fixer le défenseur jusqu'au bout. Au départ, mon idée, c'est de lui mettre. Mais après, je vois que le défenseur, il va plus sur Raph. Il me laisse un angle de tir et j'ai saisi ma chance. Et pour le bien de l'équipe, c'est rentré, c'est top. En première, on était peut-être un peu trop statique, on ne mettait pas assez de mouvement, pas assez de folie. Et en deuxième, Bah, il y avait beaucoup de mouvements et on voit que quand on met du mouvement et qu'on est juste techniquement, on arrive à se procurer beaucoup de situations. Et c'est une belle équipe en face avec sur leur banc, il y avait beaucoup de joueurs de qualité. Donc voilà, c'était un match qu'il fallait gérer et on l'a plutôt bien fait quand on menait au score. Mais ce qui était bien, c'est qu'on a continué à aller de l'avant. On aurait pu se dire à 2-1, voilà, on attend et on joue que des contres. Mais on a continué à aller les chercher, à les mettre sous pression et voilà, ça a payé, donc c'est bien, il faut continuer comme ça.
Et donc victoire 4-1 que l'on a vécu en direct sur Totem avec l'intégrale Saint-Eur de cette rencontre entre Rodez et Angers. On termine cette première partie avec évidemment cette bonne nouvelle, ces bonnes infos et cette victoire que l'on vient de débriefer avec Andreas Umtondji. Andreas, vous restez avec nous évidemment pour la deuxième partie qui arrive à retrouver évidemment en podcast sur notre site radiototem.fr. On va aborder évidemment...
On va rentrer dans notre site internet, vous allez voir, il faut se baisser un peu.
Il y a une petite porte, mais rien de bien lugubre, tout est clair évidemment, il y a la lumière, rassurez-vous. On aura l'occasion de parler évidemment de votre premier but de la saison sous les couleurs ruthénoises et puis... On parlera également d'une partie un peu différente du football, les prêts, les joueurs prêtés. Vous faites partie de cette catégorie-là, des joueurs prêtés. On aura l'occasion d'avoir votre avis sur cette question des joueurs prêtés. En tout cas, merci beaucoup pour ces premières minutes, ces analyses concernant la rencontre face à Angers. Et puis, on vous souhaite quand même un bon match pour samedi prochain face à Dunkerque.
Merci.
Le club sang et or sur Totem. Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux.
Deuxième partie de ce club sang et or avec notre invité Andreas Umtondji qui est toujours dans nos studios. Andreas, arrivé en 2019 à Caen, c'est là-bas que vous avez signé votre premier contrat pro jusqu'en 2024. L'année dernière, vous avez connu deux prêts successifs à Quevilly et à l'US Orléans. Et là, vous êtes à nouveau prêté à Rodez. Cette fois, c'est toute la saison, on est d'accord. Toute la saison à Rodez.
Vous aviez joué d'ailleurs avec QRM contre Rodez, non?
Oui, c'était le premier match du championnat la saison dernière. Ouais.
Vous en gardez quel souvenir?
Match compliqué. 0-0, je crois.
Ouais, c'est ça. Ça
les deux équipes, c'était pas un
pluie de buts.
Avec beaucoup d'ironie laissée dans la voix de Jean-Charles Virlogeux. Bon, dans un instant, on va parler justement des joueurs prêtés, puisque vous faites partie de cette catégorie-là. On va avoir votre sentiment, votre analyse par rapport à cette situation-là. Avant ça, on va revivre un événement qui s'est déroulé ce samedi avec votre but contre Angers. On a eu une petite partie tout à l'heure de votre but. Là, le voici en version longue. Ça dure 1 minute 10.
Allez, c'est Kylian Corredor qui essaye de renverser complètement vers Lorenzo Rajo. Il y a peut-être quelque chose à faire là avec Willy Tiounoussa. Willy Tiounoussa, il a envie de marquer ce soir.
Le pied droit, dans la surface de réparation. Kylian Corredor s'est touché. Faut passer devant, bien joué Andreas Umtondji sur la surface de réparation, la frappe.
But, Andreas Umtondji pour le 3-1. Ils se sont battus, les attaquants de Rodez. Ils se sont battus avec Andreas Umtondji qui est passé devant Yaya Fofana et il lui a mis ensuite un petit ballon entre les jambes. 3-1 pour Rodez.
Ah, c'est parfaitement bien joué cette affaire, Andreas Umtondji. Il a fait preuve de sérénité dans la surface de réparation, il s'est pas emballé. Il a vu que le premier coup c'était trop tard, il était trop excentré, il est retourné sur lui-même, il s'est remis en bonne position, petit ballon croisé entre les pieds de Fofana.
On parlait de se remettre en confiance, Jean-Charles. Ouais. Les deux attaquants, Corredor et Umtondji, ont marqué, plus un milieu offensif, Fonis Taibi. Est-ce qu'on ne parlait pas de confiance qui revient progressivement?
Ah oui, là, il y a beaucoup de signaux positifs dans ce match pour Rodez. C'est
qui
peut-être
semblait
un match
pourtant
charnière.
Si ouais. Mal engagé.
Bah, comme quoi, effectivement.
Ah, vous l'attendiez de pied ferme, ce but quand même. Qu'est-ce qui manquait jusqu'ici, selon vous, pour que vous trouviez le chemin des filets?
Je dirais justement la petite réussite, le petit truc. Parce que si on regarde bien, personnellement, les matchs que j'ai pu faire depuis le début de saison, j'ai eu tout le temps... Sur les 4 ou 5 derniers matchs, au moins une grosse action, une grosse situation pour pouvoir marquer. Et puis, bon, des fois, les mauvais choix, sûrement. Et la plupart du temps, même les mauvais choix, parce que si ça finit pas au fond, c'est qu'on n'a pas tout bien fait. Et quelquefois, le bon arrêt ou bien le manque de réussite. Et tout était aligné pour que je puisse le mettre au fond.
Alors le championnat n'a pas démarré non plus depuis 6 mois, mais est-ce que vous avez quand même, vous commenciez à cogiter un peu?
Cogiter, non. Après, chaque match où il y a une contre-performance ou bien chaque match où il y a un truc qui ne va pas, forcément un athlète de haut niveau ou bien n'importe quel compétiteur, il se remet en question. Et il se pose les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que j'ai fait de mal.
Et vous en êtes inspiré de ça? Vous avez modifié des choses pour, vous pensez, réussir à marquer ce coup-ci?
Oui, j'ai modifié des choses, oui.
Alors, en plus. C'est le moment où là, vous en avez trop ou pas assez dit.
Je vais rester sur le pas assez dit. Non, c'est des choses que je garde pour moi. C'est
dans la préparation ? C'est dans l'entraînement ?
Alors, c'est dans le travail la semaine déjà.
Ouais.
Chaque joueur a besoin de différentes choses pour se sentir bien à la bord du match. Moi, je sais que j'ai changé quelque chose, quelques exercices, quelques
okay. petites choses
dans ma façon. Voilà, ça, ma routine. Et ensuite, dans la façon d'aborder le match, tout simplement. Parfois, ça va être certaines personnes qui se mettent trop de pression, d'autres pas assez, d'autres pas assez de concentration.
Vous mettez beaucoup la pression, vous ?
Je dirais, en général, oui. Je mets pas mal de pression, c'est normal. C'est un match, c'est important, il faut être performant. Donc, pas assez de pression, c'est pas bon. Trop de pression, c'est pas bon non plus. Donc, ouais, il faut s'en mettre.
Mais trouver le bon équilibre,
c'est ça, exactement.
Évident.
Tout est une question d'équilibre, vraiment, même dans le travail de la semaine. Donc.
On en a parlé avec vous, Andreas. C'est vrai qu'on a souvent, malheureusement, parlé de vos loupés, hein, notamment dans les rencontres précédentes. C'est évidemment beaucoup mieux de parler de votre réussite face au but. Ben justement, on a reçu des questions qui vous interpellent directement, Andreas, directement sur notre page Facebook, Jean-Charles.
Oui, parce que le paradoxe, c'est que ce but arrive sur un match où vous sortez du banc, ce qui a inspiré cette question à un de nos auditeurs, Mathieu, qui a répondu à notre appel sur Facebook. Il a laissé cette question sur Messenger. Est-ce que vous verriez du coup plutôt comme un super sub, capable de faire la décision, ou est-ce que vous préférez quand même débuter les rencontres, quitte à devoir redoubler d'efforts, parce qu'on sait comment ça marche. Hein. Parfois, celui qui est titulaire use les défenses pendant une heure, et celui qui rentre derrière
c'est vrai.
Se sert, entre guillemets.
C'est une bonne question. Je dirais que, sincèrement, tant que je finis par aider l'équipe, je suis vraiment satisfait. Et voilà, c'est ça.
Ouais, non, donc, peu importe.
L'équipe. Moi, non, sincèrement...
Le tout, c'est d'être utile.
Le match où j'ai pris le plus de plaisir, le plus de joie, c'est ce week-end, depuis le début de saison. Donc,
le but, il fait beaucoup, voilà, forcément.
Le but, il fait.
Le scénario.
La victoire, il fait aussi. Ouais. Donc, le scénario. Donc, c'est là où j'ai pris le plus de plaisir. Et pourtant, c'est le seul match où j'étais pas titulaire.
Donc, en gros, si vous rentrez une demi-heure seulement à chaque match, mais que vous plantez à chaque fois, vous signez.
J'ai pas dit ça. Non, après, le plus un joueur joue, le plus il est content. Ça, c'est sûr et certain. Personne veut être sur le banc. Personne veut commencer sur le banc. Après, si on me dit que je rentre à tous les matchs et qu'on fait que des victoires jusqu'à la fin de saison, je signe tout de suite.
Bon. Et puis si vous rentrez à chaque match et vous marquez un but, c'est peut-être aussi positif.
Sinon encore plus.
Voilà, c'est peut-être aussi positif, même si vous ne débutez pas en tant que titulaire. Merci en tout cas à Mathieu hein, sur la page Facebook de la radio pour sa petite question.
Le club sang et or sur Totem.
Andreas Outondji qui est notre invité, vous êtes prêté par Caen à Rodez. Alors parlons des prêts justement, qu'est-ce que ça représente comme opportunité de se faire prêter quand on est un jeune joueur comme vous Andreas ?
Bah, c'est ce que j'avais pu dire il y a un an, c'est deux prêts, enfin pour l'instant les trois prêts que j'ai fait, c'est trois prêts de développement parce que justement le Stade Marab de Caen ne compte pas sur moi dans l'instant T mais veut continuer avec moi sur le long terme. Donc c'est des choses que j'ai vues avec la direction et puis avec les différents coachs qui ont été là-bas. Et pour moi, l'opportunité d'un prêt, c'est réussir à trouver le bon club, avoir la chance de pouvoir trouver le bon club qui, sportivement, va pouvoir vous accueillir, même si financièrement, il n'y a pas la volonté de pouvoir faire un transfert. Donc se faire prêter, c'est une très bonne option pour les joueurs qui ont besoin de temps de jeu, qui veulent juste jouer au foot, en fait, qui veulent juste... jouer, progresser et travailler.
Est-ce que le prêt, ça permet quand même de se développer en tant que joueur ?
Oui. Pour moi, justement, le prêt, c'est se préparer pour la suite, en fait. C'est se préparer pour la suite, c'est jouer, c'est ne pas être dans l'attente de savoir est-ce que mon club à qui j'appartiens va me faire jouer tout de suite.
Même si les valeurs sont un peu différentes entre le club qui vous prête et le club dans lequel vous êtes prêté ?
Valeurs dans quel sens ?
Bah, ça peut être valeurs, ça peut être instruction de jeu.
Je vois. Pour le coup, quand on est jeune surtout, jouer, il n'y a que ça qui fait progresser. Ça ne sert à rien de s'entraîner dans un club.
Un registre particulier, je prends un exemple qui n'est peut-être pas votre cas, mais vous avez besoin de progresser dos au jeu, je vais trouver un club justement qui envoie des longs ballons et qui va me faire progresser dos au jeu, c'est pas l'idée.
Il y en a qui font ça, si, ça c'est une très bonne question, il y en a qui font ça, et moi pour le coup c'était plus trouver justement des...
Du temps de jeu.
du temps de jeu. Et ce que j'ai trouvé à Rodez, et là où je suis très content, c'est qu'en fait, c'est la première fois en professionnel que je tombe sur un club qui offre un plan de jeu qui est totalement dans ma façon de jouer, qui colle complètement avec mon style, en fait. Une équipe de transition qui joue avec des joueurs qui ont un bon volume et surtout beaucoup d'intensité, qui répètent les efforts à très haute intensité. Et ça, c'est mon style. Donc,
ça, c'est ce que vous recherchiez ?
C'est ça, c'est ce que je ne recherchais même pas. Je recherche un club qui a du temps de jeu et j'ai eu la chance de tomber sur Rodez. Ah, et oui. Didier Santini, je l'ai eu au téléphone, le coach, et il m'a expliqué justement ça, qu'ils avaient ciblé mon profil parce que justement, j'étais un joueur qui était capable de répéter beaucoup les efforts à très haute intensité, qui allait vite et qui partait dans la profondeur, et que c'était de ça dont ils avaient besoin. Donc moi, ça m'a directement plu. Et
c'est ça qui vous a convaincu.
C'est un plus, voilà. On va dire qu'il y a des prêts juste pour avoir du temps de jeu. On envoie un joueur dans un club parce qu'on pense que là-bas, il va jouer. Et moi, j'ai eu la chance, en cherchant ça, de trouver encore mieux avec un club qui a vraiment les mêmes valeurs que moi et la même philosophie de jeu.
On a son mot à dire quand même en tant que joueur, quand on est prêté comme ça, ou est-ce qu'on va un peu où le club le décide, il faut que tu joues
Le prêt, non, on choisit son club. Bah, pour le coup, moi, ça a été mon cas, j'ai choisi mon club. Après, c'est une discussion avec le directeur sportif, c'est une discussion avec le club, parce que si demain...
Tout le monde doit y trouver son compte.
Il faut qu'il y ait de l'intérêt de la part d'un club qui vienne vous chercher pour un prêt ou pour un transfert, mais là, dans la situation, c'est un prêt. Et ensuite, voyez ce qu'il y a sur la table et vous choisissez.
C'est ça.
Est-ce que ça se passe comme ça ou est-ce que le club dans lequel qui vous appartient, bah du coup, choisit en disant ah non, tu vas pas aller dans ce club-là ou tu vas pas aller dans ce club-là parce qu'on va les rencontrer, donc forcément, ça peut être aussi un mauvais exemple pour la suite.
Bah pour le coup, prêt dans un même championnat, c'est rare parce que justement, les deux équipes s'affrontent. Après, moi, je sais que je peux pas jouer contre Caen cette saison. Donc ça, la question est réglée.
C'est arrivé par le passé.
Oui, ça arrive assez régulièrement dans les nouveaux contrats. On va dire qu'il y a une clause pour que justement le joueur en question, qui normalement là, dans votre cas, est sous contrat avec Caen, ne joue pas contre son club.
C'est ça. Oui, c'est une bonne question. Donc, une fois qu'il y a la volonté d'être prêté par le joueur ou par le club, bah, c'est des discussions. Et je dirais qu'il y a pas, c'est pas un rapport de force ou quoi, c'est juste une discussion à savoir est-ce que le club veut vraiment que le joueur est, par exemple, à tel niveau. Parce qu'à l'heure actuelle, j'aurais pu être prêté en National, j'aurais pu être prêté en Ligue 2, j'aurais pu être prêté peut-être même ailleurs, dans d'autres championnats, ou bien même sous une autre forme, ça pouvait peut-être être un transfert ou quoi. Mais la volonté, c'est une discussion, en fait. C'est une discussion. Qu'est-ce que le joueur veut? Qu'est-ce que le club veut? Quel compromis les deux camps sont prêts à faire? Et puis après, bah, pour le coup, moi, j'ai la chance que camps sont vraiment à l'écoute et ils veulent vraiment me faire progresser. Ils sont de mon côté, ils veulent que tout se passe bien. Donc, une fois que j'ai dit que je voulais aller à Rodez, ça s'est très bien passé. Ils m'ont même aidé à venir jusqu'ici. Mais je pense qu'il y a des situations de joueurs où c'est beaucoup plus compliqué parce que, pour le coup, moi, c'est un prêt développement, mais il y a des prêts où on peut se débarrasser d'un joueur parce qu'on ne veut pas qu'il joue. Il y a des prêts où voilà, le salaire est trop gros. Ça, ce n'est pas mon cas. Mon cas, c'est vraiment un prêt développement.
Donc, oui, c'est une bonne formule. Prêt développement pour les jeunes joueurs, c'est pour devenir de plus en plus aguerri. Quoi.
C'est ça.
Okay.
Ouais, et puis ça veut dire qu'on mise sur vous. On a envie d'investir sur vous. Donc, pour la confiance, c'est quand même plus sympa.
Les joueurs de prêt, on les voit souvent d'un point de vue extérieur, ou en tout cas les non-amateurs de football les voient souvent comme des mercenaires. Vous savez, c'est ces joueurs-là qui viennent et qui jouent, qui prennent un petit billet et qui repartent ensuite dans leur club. Bon, finalement, c'est un peu plus compliqué que cela, on vient d'en parler il y a quelques instants. Et quand on arrive dans un club sans connaître le projet, sans connaître l'environnement, est-ce que c'est l'intégration qui est primordiale justement pour la réussite d'un prêt ?
C'est une bonne question, ça aussi. Justement, la manière dont moi je choisis les clubs où je suis allé, parce que du coup j'ai fait trois prêts, donc trois prêts j'ai fait.
Vous êtes un expert, mais
c'est Quevilly, Orléans, Rodez.
Quevilly, Orléans, Rodez, exactement. Dans le bon ordre en plus. Donc les trois fois où justement j'ai vécu trois mercato, où en fait à chaque fois je regardais les options que j'avais, et justement en fait avant d'aller dans le club, je regarde vraiment tout, enfin tout ce que je peux en tout cas.
Vous faites appel à des contacts pour savoir comment ça se passe à l'intérieur du club ?
Ouais, ça peut arriver. Ici, par exemple, j'ai contacté Andy Pembele qui était là il y a quelques saisons pour lui demander comment ça se passait.
Ouais, la saison dernière. Il n'avait pas pu jouer lui aussi, hein, vous vous rappelez, contre le PFC.
Ouais. Ouais, joueur prêté la saison dernière par le Paris FC et qui est reparti au Paris FC.
C'est ça. Donc, je peux aussi. Et qui était à Caen, c'est pour celle-là dont je l'ai connu. Donc,
Donc vous faites appel à toutes les cartes que vous avez en votre possession c'est pour ça, savoir comment ça se
passe.
Et vous
avez dit bien de Rodez.
Ça peut être aussi regarder les matchs de l'équipe, discuter avec le coach, discuter avec ceci, cela. Donc c'est vraiment prendre le maximum d'informations possibles, ce qui fait qu'une fois qu'on arrive dans le club, on ne sait pas où vraiment on met les pieds, mais en tout cas, on a les grandes lignes. Et c'est justement ça qui m'a fait prendre la décision de Rodez. C'est parce que je savais déjà, en venant ici, que bah, même s'il y avait quelques problèmes, en réalité, le plan de jeu, je le connaissais. La vision du coach, je la connaissais. Ce qu'on allait me demander, je savais déjà. Donc, en fait, il y avait des inconnus, oui. Mais les grandes lignes, je savais que ça allait matcher.
Bon, les prêts, globalement, Rodez y est habitué. Hein, mais cette année, c'est plutôt les années maigres par rapport à la saison dernière. Effectivement, deux, vous êtes capable de me les citer, hormis évidemment Andreas.
Je me rappelle plus de l'autre.
Non. Ouais, c'est pas si simple que ça. Hein. Thierry Carconte qui est arrivé de Brest, ouais, qui fait partie également des joueurs prêtés. L'année dernière, on comptait 6 joueurs prêtés avec des réussites, hein, et évidemment. Marvin Senaya notamment, ou encore Sambou Soumano et Loris Mouyokolo, qui avant sa blessure à la cheville, était devenu un titulaire de cette équipe de Rodez. Alors on se pose cette question, est-ce que Rodez c'est un club tremplin, un club parfait pour les prêts finalement, pour s'épanouir et ensuite devenir un meilleur joueur?
Bah justement, cette année on voit qu'il n'y a pas beaucoup de prêts. Rodez, c'est un bon club pour pouvoir progresser parce que justement, on a un staff qui est vraiment à l'écoute et des coachs qui sont vraiment là pour faire progresser le joueur. Et le discours de justement Didier Santini, jusqu'à même encore ce matin, il en parlait, c'est le plaisir du coach, ce serait justement que des joueurs réussissent à, en performant ici, pouvoir aller plus haut parce que c'est ça qui les motive. Donc, c'est pas Rodez qui est un bon club tremplin, c'est les gens qui le font, qui sont là pour faire progresser les joueurs et les amener vers le haut niveau. Voilà, c'est ça.
Ok, c'est le staff qui accompagne bien les joueurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, vers la réussite de leur carrière.
Exactement.
Ok. Voilà pour cette page prêt. C'est un peu important pour nous d'avoir justement l'avis d'une personne qui est prêtée à Rodez, de savoir comment ça se passe. Parce qu'on pense généralement, bah, c'est sympa, il est en prêt, mais il va repartir à la fin de la saison. Si le club descend, il s'en fiche un petit peu. Bah, pas vraiment, on va dire que des fois, il y a...
Non, pas du tout.
Voilà.
D'ailleurs, souvent, du coup, justement, j'ai eu beaucoup de prêts. Donc, des fois, il y a même des remarques de joueurs qui disent, ah, les joueurs prêtés, ils s'en foutent ou bien...
Non, ils ne sont pas investis.
Voilà, ils ne sont pas investis, arrive, non, vraiment pas. Sincèrement, à chaque fois que j'ai été dans un club, j'ai vraiment voulu la réussite de l'équipe. Et puis même, ça fait beaucoup plus de bien. On passe une bien meilleure saison et on se sent bien mieux quand il y a de la réussite collective.
Avant de s'intéresser... On a d'illustres exemples hein, de la saison dernière. Marvin Senaya...
Il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup. Marvin Senaya qui depuis a signé un nouveau contrat avec Strasbourg et il a fait une saison pleine la saison dernière avec Rodez. Avant de s'intéresser à Dunkerque, le prochain adversaire du RAF ce samedi, un mot sur votre début de carrière internationale, Andreas. Vous avez été convoqué pour la première fois avec le Bénin, c'était en juin 2023. Comment ça s'est passé déjà? Comment on reçoit ce type de convocation, ce type de demande?
J'avoue que c'était une première pour moi, je ne savais pas du tout comment ça se passait. Je pensais vraiment que c'était... On apprenait une liste et puis... Mais non, en fait, c'est des discussions déjà auparavant. J'ai rencontré le sélectionneur qui était venu me voir à Orléans. On avait discuté.
Vous êtes dans une sorte de pré-liste, c'est ça? Il y a une sorte de groupe élargi?
Même pas encore avant. C'était vraiment des mois à l'avance, en fait. Des discussions. Moi, ça date depuis que j'étais en réserve à Caen à l'époque où il y avait des premières approches, mais c'était pas encore le moment parce que je faisais mes débuts en pro. J'étais pas encore réellement...
Donc, année 2019-2020, encore avant?
2020, je dirais, ouais.
Ouais.
Ils veulent savoir si le joueur est vraiment intéressé par la sélection, etc. Okay. Si... Puis après vient le sélectionneur qui me contacte. À l'époque, c'était Michel Dussuyer. C'était pas encore le bon moment parce que j'étais en début en pro. Puis après, j'ai eu, on va dire, les premiers... les premières galères du monde pro où il faut s'y habituer, il faut se mettre dedans, en fait, faut lancer sa carrière, on va dire. Et c'était pas le moment. Et j'étais pas encore en place, même, j'étais pas vraiment totalement aguerri. Et puis, il y a eu le changement de sélectionneur avec Gernot Rohr qui est venu, puis qui m'a recontacté. Puis là, c'était le bon moment, j'étais à Orléans, les choses commençaient à avancer dans le bon sens pour moi. Donc, il y a eu cette première discussion où ils sont venus jusqu'à Orléans pour discuter avec moi. Ça, c'était plusieurs mois à l'avance. Puis après, voilà la pré-liste. Et puis après la liste et ensuite la sélection.
Puis les premières minutes?
Ouais, les premières minutes, magnifiques. C'est vraiment difficile à décrire. Je ne sais pas exactement le nombre de places que le stade faisait, mais il y avait 38 000 spectateurs.
C'était au Sénégal ?
Non,
c'était au Bénin.
C'est ça,
t'es contre le Sénégal, par contre,
ouais,
c'est ça ?
À Cotonou.
Ok. Donc, du coup, forcément, ça garde, vous gardez pas mal de souvenirs de tout cela, quoi.
Ah ouais, c'est incroyable. En plus, là-bas, c'est pas vraiment des. C'est pas des spectateurs, quoi. C'est 38 000 supporters qui crient. Non, c'était fou. Le stade est même pas spécialement fait pour résonner, mais le bruit qu'on entend, c'est incroyable. Incroyable.
Donc, une belle émotion à ce moment-là,
ouais,
de fouler ces terrains-là avec le maillot d'une sélection et la sélection du Bénin. Voilà l'occasion juste d'en parler avec quelques mots, forcément, parce que ça doit évidemment faire pas mal de beaux souvenirs à raconter autour de vous et avec nous, évidemment, à l'occasion de ces premières minutes de temps de jeu avec le Bénin cette année. Allez, on s'intéresse à Dunkerque.
Le club sang et or sur Totem.
Prochain adversaire, donc Dunkerque, ce samedi au stade Marcel Trébu, un club de caractère car les Bleus et Blancs ont retrouvé le goût de la Ligue 2 en 2020-2021 après 24 années passées dans des échelons inférieurs. Sauf que lors de la seconde saison en Ligue 2, ils sont descendus, c'est Maritime, ils n'ont pas réussi à se maintenir. Ils ont retrouvé donc le National avant de retrouver donc la Ligue 2 cette année. Hein. Je parlais de caractère car ils ont su retrouver des ressources nécessaires pour retrouver la Ligue 2 cette année.
Bon, évident, Joe. Yo-yo comme ça.
Ouais, c'est compliqué quand un club joue à l'ascenseur comme ça. Bon, l'effectif a été pas mal revu avec 12 arrivées, 5 départs et notamment 3 prêts. Côté sportif, il y a le portier qui est expérimenté, Arnaud Bagilon, avec 40 printemps quand même. Hein. C'est pas mal au compteur. Bon, il a pris 8 buts en 5 matchs joués. Peut-être qu'il y a quand même quelque chose à faire de votre côté, Andreas.
Et puis, il y a deux joueurs. Ils vont le décrypter comme Fofana.
Bah, bien sûr. Et puis, il y a un joueur qui a des stats. Un joueur ensuite dont on va reparler que l'on connaît bien à Rodez, mais un joueur particulièrement qui a des stats, c'est Ryan Grieb. 5 matchs, 2 buts, 2 passes D et surtout 3 cartons jaunes pour le franco-algérien. Bon, il a purgé sa suspension, il sera de retour pour Rodez. Il l'a purgé contre Grenoble, donc il sera de retour ce week-end. Et puis, comment passer à côté évidemment de la présence dans cette équipe de Rémi Boissier, ancien capitaine du RAF, qui compte presque 400 minutes de jeu pour un but marqué avec les Maritimes. Comment vous voyez Dunkerque, vous, Andreas ? Est-ce que c'est un candidat au maintien comme Rodez ou est-ce que justement c'est plutôt un club qui risque, entre guillemets, de faire malheureusement l'ascenseur ?
Je ne sais pas du tout le statut que les équipes peuvent avoir pendant ce début de saison parce qu'on le voit, les débuts de saison, c'est toujours là où beaucoup de choses se jouent. Et à l'heure actuelle, si on regarde bien le classement, les gros sont pas forcément là où ils devraient être et les petits ne sont pas forcément là où ils devraient être. Donc, à l'heure actuelle, on ne peut pas faire de prédiction pour qui que ce soit.
Est-ce que vous auriez consulté votre boule de cristal et vous auriez dit que Laval était premier de Ligue 2 au moment où on se parle
Bah oui, mais c'est justement, c'est de ce genre là, c'est de ce genre de choses là qu'on peut parler. C'est le football, il y a des surprises et un championnat c'est très long. On ne sait pas si Laval sera là ou si Dunkerque ou Rodez sera là dans 10, 15, 20 journées, mais à l'heure actuelle, les choses sont comme ça.
16e en tout cas à Dunkerque au moment où on se parle avec 6 points au compteur. En tout cas, la dynamique est du côté des Ruthénois avec cette belle performance ce week-end face à Angers. Je suppose que ça, quand même, ça joue dans la balance d'être en confiance.
C'est ça. Y a deux choses. Soit on garde la confiance et on continue à travailler, soit on se repose sur nos acquis et là...
Soit on se voit trop beau, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Ça arrive, ça, de temps en temps, quand on est footballeur, de se voir trop beau, finalement ?
Oui, je pense que ça arrive à beaucoup de gens. Justement, le compétiteur, il se remet en question chaque semaine. Bon, quand ça va mal, oui, mais quand ça va bien aussi, il sait se dire qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, et il repart de plus belle.
Et le coach, il a une part à jouer dans tout ça ?
Oui, justement, c'est à lui de bien remettre les choses au clair dès aujourd'hui, parce qu'on a repris l'entraînement aujourd'hui, mais... S'il voit que les choses vont mal, je sais très bien qu'il...
Vous n'avez pas été témoin de la première grande soufflante qu'il a mis dans les vestiaires ce week-end.
Ouais, j'en ai vu plein d'autres.
Par Didier Santini aussi.
Ah oui, j'en ai vu plein d'autres.
Bon, et ben on vous souhaite de ne pas en avoir d'autres finalement, et d'être en confiance et de faire des belles performances, et notamment dès ce week-end face à Dunkerque.
Pas d'enflammade, hein, pour reprendre un terme cher au président Murat. C'est vrai qu'après le 4-1, ça peut être un piège. Il ne faudra pas tomber dedans. Et c'est vrai que ça sera particulier forcément pour Rodez de retrouver Rémi Boissier,
bien
même
sûr.
Si le moment le plus fort, ce sera le match retour quand il reviendra à Paul-Ligny.
Bien sûr, je ne vous ai pas consulté, Jean-Charles. Les bobos, le médecin que vous êtes, est-ce que l'effectif est au complet ?
Il est au chômage technique. est au chômage technique, parce que en dehors de Eric, évidemment, toujours blessé. Pas de blessure. On sait que Kevin Boma est revenu progressivement dans le groupe. Il n'était pas dans le dernier groupe retenu sur la feuille de match ce week-end contre Angers, mais il était bien apte. Il s'est assis en tribune et on le verra peut-être dans le groupe. En tout cas, Didier Santini a le choix pour le déplacement de ce week-end.
Et pour toutes celles et ceux qui se posaient la question, c'est Eric Van Den Abel, bien sûr. Bien sûr, parce que je sais que vous l'avez eu encore au téléphone régulièrement, mais c'est vrai que vous oubliez de préciser son nom, Jean-Charles. Andreas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Andreas Tonji, attaquant du Rodez Aveyron Football, prêté par le Stade Malherbe de Caen. C'était très intéressant de revenir avec vous sur ces joueurs prêtés. Et on vous souhaite évidemment de trouver le chemin défilé une deuxième fois dès ce week-end.
Merci.
Allez, bonne soirée.
Totem, le club sang et or.